la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'écho.
Pour débuter cette semaine, je suis avec un entrepreneur engagé. Il est directeur des opérations chez Greenomy, une scale-up bruxelloise spécialisée dans la mise au vert des entreprises. En voilà un sacré chantier pour pas mal d'entre elles. Bonjour Sébastien Limpoul.
Bonjour Andine.
Alors ensemble, nous allons principalement parler de la directive européenne CSRD, quatre lettres qui vont changer les règles du jeu économique. Cette loi impose progressivement aux entreprises de se préoccuper de leurs actions sociales et environnementales dans toute leur chaîne de valeur. On parlera aussi de la montée des extrêmes en Europe, en marge des élections qui avaient lieu au Portugal ce dimanche. Et puis, une plongée dans le business très lucratif des expositions immersives. On en voit de plus en plus dans le monde et la Belgique n'y échappe pas. Je suis Andine Ouarès, mon invité est Sébastien Limpoul. Bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
Dès 2025, les nouvelles règles européennes de la directive CSRD vont imposer aux grandes entreprises de faire la transparence sur leur durabilité. C'est important. En Belgique, 2280 entreprises sont directement concernées. Elles représentent près d'un tiers de la valeur ajoutée brute de l'économie belge. Alors CSRD, Sébastien, qu'est-ce qui se cache derrière ces quatre lettres? En fait, de quoi s'agit-il?
Alors en gros, il s'agit de la directive européenne de reporting en durabilité. En fait, c'est un peu l'équivalent des règles financières, mais pour l'aspect durabilité, pour l'aspect ESG. Donc E, c'est pour environnement, climat. S, c'est pour tout ce qui est au niveau social, la diversité, le respect des droits humains. Et G, pour gouvernance, typiquement la structure de management, le respect des données privées, etc.
Ok, mais concrètement, quelles conséquences tout cela aura sur les entreprises, l'arrivée de cette directive? Qu'est-ce qu'elle va chambouler finalement?
Alors, les plus grandes entreprises, c'est-à-dire celles de plus de 250 employés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions d'actifs, vont être forcées de publier chaque année un rapport sur leur durabilité. Les autres entreprises seront amenées à partager des informations sur leur performance en durabilité pour leurs partenaires financiers, mais également pour les grandes entreprises qui ont besoin de ces informations pour leur reporting à elles.
Et on a du pain sur la planche à ce niveau, puisque pour atteindre les objectifs du Green Deal européen, les besoins financiers sont estimés à 1 milliard de milliards d'euros entre 2021 et 2030. Ici, l'Union européenne choisit donc de faire porter la responsabilité de la transition sur les grandes entreprises plutôt que sur les consommateurs, qui sont plus nombreux à se soucier de la fin du mois plutôt que de la fin du monde. Est-ce que c'est un pari légitime selon vous ?
Alors d'après moi, complètement, parce que effectivement, malheureusement, la plupart des consommateurs ou les consommateurs dans l'ensemble ne jouent pas suffisamment leur rôle pour la durabilité. Il y a deux facteurs, il y a l'aspect de coût. Effectivement, la plupart des consommateurs privilégient systématiquement le prix sur la durabilité pour des raisons tout à fait légitimes de budget limité. Et puis, il y a l'aspect sobriété. On sait parfaitement les comportements qu'il faut adopter pour avoir un monde plus durable, un mode de vie plus durable. Maintenant, la plupart des consommateurs ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires s'ils n'y sont pas contraints. Donc, pour le législateur, il reste deux options. Soit restreindre la liberté des consommateurs, soit travailler sur le facteur qui est en amont, c'est le facteur de production, c'est-à-dire les entreprises. Je pense que la deuxième option est la meilleure.
Vous faites partie d'un groupe d'entrepreneurs qui, à l'automne dernier, a lancé le Be Climate Hub. C'est une plateforme belge de start-up climatique. L'objectif, c'est d'accélérer la transition écologique de la Belgique en rendant plus visibles les jeunes entreprises qui ont pour priorité des objectifs environnementaux. Alors, c'est important pour vous de créer des réseaux d'entreprises durables, de se battre ensemble pour un objectif commun finalement ?
C'est très important. Je suis convaincu que les initiatives comme la CSRD ne seront pas suffisantes pour atteindre les objectifs en termes de lutte contre le changement climatique. Et il faut impérativement accélérer la mise à l'échelle des solutions qui existent, les solutions durables qui existent. Et pour ce faire, je suis convaincu que seule une collaboration radicale permettra d'accélérer suffisamment. Donc c'est essentiel de collaborer.
Et puis le temps presse en termes de transition écologique. D'après vous, est-ce que la plupart des boîtes sont prêtes?
Malheureusement, non, et c'est un grand problème. Il y a d'abord l'aspect reporting et diagnostic. Il faut pouvoir aider aujourd'hui les entreprises à mesurer leur performance en durabilité pour comprendre où elles en sont. Et puis, encore plus important, il y a un besoin critique de compétences en durabilité pour permettre à tous les secteurs de devenir plus durables, donc pour améliorer leur performance. Dans les deux cas, c'est un gros problème aujourd'hui.
Et donc vous, vous êtes directeur des opérations chez Greenomy, qui est une scale-up spécialisée dans le conseil en durabilité destiné aux entreprises. Dans votre travail tous les jours, est-ce que vous voyez des entreprises qui sont réticentes à intégrer les critères de durabilité dans leur stratégie, notamment avec les conditions économiques qui sont parfois difficiles pour certains secteurs en ce moment ?
Tout à fait. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui perçoivent le reporting en durabilité comme un coût supplémentaire et n'en perçoivent pas l'aspect stratégique. C'est par contre l'objectif de la CSRD de permettre à toutes ces entreprises de comprendre la dimension stratégique que ça va avoir.
Est-ce que ces entreprises qui n'intègrent pas les critères de durabilité dans leur modèle, est-ce qu'elles sont vouées à disparaître d'après vous ?
Alors, j'en suis convaincu, personnellement. La seule question qui reste, c'est à quel horizon de temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la durabilité va devenir un facteur de compétitivité au même niveau que le prix et la qualité. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont pris des engagements en termes de durabilité. Pour améliorer leur performance en durabilité, ils doivent se tourner vers leurs fournisseurs qui doivent eux-mêmes être plus durables. Ça va donc devenir un critère de sélection de la part de ces grandes entreprises pour savoir avec quels fournisseurs ils vont vouloir travailler.
Et est-ce que l'arrivée donc de cette directive CSRD, on peut dire grossièrement que ça sonne la fin du greenwashing pour les entreprises qui ne pourront plus prétendre tout et n'importe quoi pour se donner un air durable ?
Alors, ce sera évidemment pas parfait dès le début, mais on va clairement vers une réduction de l'espace pour le greenwashing. Et il faudra quelques années, quelques itérations pour qu'on affine et que la législation soit le plus efficace possible.
Oui, bien sûr. Et puis précisons que la Belgique a jusque début juillet pour transposer la directive CSRD en droit belge. Et puis tant qu'on parle de durabilité, ce mardi, on connaîtra les vainqueurs du concours Changemaker, organisé par l'Eco et nos confrères du TAID. Parmi 30 candidats, deux entreprises seront élues pour leur impact positif sur l'environnement, mais on y reviendra bien sûr dans le brief. Alors, il y a moins de deux semaines, la même Union européenne qui met en place cette directive CSRD n'est pas parvenue à adopter une autre directive, celle sur le devoir de vigilance des entreprises. Cette loi prévoyait de forcer les grandes entreprises à identifier et à corriger les manquements sur l'environnement, sur les droits du travail et sur les droits humains, y compris par leurs filiales et leurs sous-traitants. Mais la directive n'a pas été adoptée. Elle a connu des revirements de dernière minute de la part des gouvernements allemands, français et italiens. Les jeux politiques nationaux ont quelque part pris le pas sur l'environnement et les droits humains. N'est-ce pas contradictoire ? Est-ce qu'on peut atteindre nos objectifs ambitieux, tant sur le plan écologique qu'humain, avec le fonctionnement actuel de nos institutions ?
Je crains que non, effectivement. Il y a deux problèmes à mes yeux. Tout d'abord, on parle d'ici d'un enjeu sur un temps très long. On parle de dizaines d'années. Or, nos institutions fonctionnent sur des cycles très courts, de 3 à 5 ans généralement. Et puis d'autre part, l'Europe ne fonctionne pas comme une île. Elle doit fonctionner dans un monde global et elle doit maintenir sa compétitivité économique dans un cadre où d'autres acteurs mondiaux ne mettent pas forcément la durabilité au même niveau de priorité.
Les Portugais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives anticipées. L'opposition de centre-droit a remporté une très courte victoire devant les socialistes au pouvoir depuis 8 ans. Mais le pays bascule clairement à droite avec une nouvelle poussée des populistes. Le parti d'extrême droite Chega a plus que doublé son score depuis 2022 avec 18% des voix. À 3 mois des européennes, ce scrutin précipité par la démission du Premier ministre sortant, Antonio Costa, vient confirmer que l'extrême droite progresse à travers le vieux continent, comme l'avaient déjà montré les électeurs italiens ou néerlandais. Le Portugal était un des rares pays en Europe à être encore dirigé par la gauche, jusqu'à ce qu'Antonio Costa jette l'éponge après avoir été cité dans une enquête pour trafic d'influence à l'automne dernier. En Belgique aussi, les extrêmes montent. Le Vlaams Belang pourrait bien rafler la mise aux élections de juin prochain. Sébastien, qu'est-ce que ça vous inspire ? La montée des extrêmes, c'est un signal préoccupant pour les affaires ?
Très préoccupant. La polarisation des opinions qu'on observe partout en Europe aujourd'hui, et même en dehors, n'est pour moi ni bonne pour les citoyens, ni bonne pour les business et les entreprises.
Et puis ce dimanche 17 mars, ce sera aussi un jour d'élection, mais en Russie cette fois. Mais bon, c'est un peu un non-événement, puisqu'on sait très bien que Vladimir Poutine sera réélu. Son inévitable réélection doit lui permettre de prouver que son peuple le soutient dans le conflit en Ukraine. À l'agenda cette semaine, les ministres des Finances de la zone euro se réunissent jusqu'à demain à Bruxelles pour discuter des grandes orientations économiques. Jeudi, l'OTAN dévoilera son rapport annuel pour l'année 2023. L'organisation passera en revue ses activités et ses réalisations pour l'année écoulée, notamment le soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Jeudi aussi, le géant pétrolier Shell présentera sa nouvelle stratégie de transition énergétique. Sébastien, vous avez peut-être une réaction là-dessus. Les géants des énergies fossiles, est-ce qu'ils prennent suffisamment part à la transition écologique?
Ah, c'est clair que non. Je pense qu'ils ont un rôle fondamental à jouer. Ils font des efforts très importants, c'est très bien. Mais on n'est pas du tout à la hauteur des efforts qui sont nécessaires. Si on regarde la production aujourd'hui des énergies fossiles est toujours plus élevée et grandit plus que la production des énergies renouvelables. Et là, c'est clairement la responsabilité de ces géants énergétiques d'inverser la tendance.
Et puis cette semaine, on connaîtra aussi les résultats de plusieurs grandes entreprises comme Adidas, Inditex, Syensqo ou encore Solvay. Est-ce que vous allez un peu au musée ou voir des expositions, Sébastien ?
Alors malheureusement, j'y vais beaucoup moins pour l'instant parce que j'ai deux enfants en très bas âge. Mais il y a quelques semaines, avec l'équipe de Greenomy, on a visité Pact à Anvers, qui est un projet d'agriculture urbaine qui vise à relocaliser une partie de la production agricole dans les villes pour fournir la nourriture locale, qui était un super beau projet.
Ok, tant mieux parce que je vous propose à présent un zoom sur la culture, plus précisément sur le business des expositions immersives. Vous savez, ce sont ces grandes expositions consacrées à des grands artistes dans lesquelles on ne trouve aucune toile originale, mais des projections sur les murs et sur le sol de leurs plus grandes œuvres. D'ici la fin du mois, il y aura 3 expositions de ce type en Belgique. Cette semaine, il y a Titanic, l'expo qui investira le site bruxellois de Tour et Taxi à partir de vendredi. Et puis dès mercredi, il y aura l'expérience immersive autour du peintre Claude Monet à Liège. Et à la fin du mois, c'est la galerie Horta à Bruxelles qui accueillera une expo immersive dédiée à Magritte, cette fois 2 ans après une initiative similaire au musée de La Bovrie à Liège. Bref, les expériences culturelles immersives se multiplient en Belgique et dans le monde. Alors pourquoi ? J'ai posé la question à Nicolas Navarro, il est professeur en muséologie à l'Université de Liège.
On en voit de plus en plus, il me semble, pour il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait, enfin, il y a un effet de mode. Et puis après, il y a un enjeu sans doute aussi économique. C'est aussi des expositions qui sont produites par des entreprises privées qui, en fait, en font une sorte de business qui fait que ces expositions sont plus faciles à produire que d'autres expositions puisqu'on n'y retrouve pas forcément des objets de collection, des objets authentiques. Essentiellement, ce sont des projections sur des espaces scénographiés. Voilà, en termes de production, ça revient un peu moins cher et donc c'est assez facile à produire et à développer, à faire tourner. La particularité de ces expos-là, c'est qu'on peut les retrouver en même temps dans plusieurs endroits. Alors qu'une exposition où on aurait des œuvres de Monet, si on reprend cet exemple-là, ben on peut pas avoir Impression Soleil Levant dans 2 expositions à la fois. C'est une autre sorte d'expérience qui n'est pas la même que de voir une œuvre de Monet qui existe en tant que telle, quoi.
C'était la cérémonie des Oscars à Hollywood ce dimanche et comme prévu, Oppenheimer a provoqué une déflagration. Le film de Christopher Nolan a remporté pas moins de 7 statuettes, dont l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Et l'exceptionnelle Anatomie d'une chute de la réalisatrice française Justine Triet a été récompensée de l'Oscar du meilleur scénario. Voilà quelques raisons de plus de regarder ces 2 excellents films si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà la fin de ce brief. Merci Sébastien d'avoir été parmi nous ce matin.
Merci pour votre invitation.
Mais avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau brief. Salut!
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.